Conférence donnée par Dany Robert Dufour le 9 mars 2016 au Centre culturel et chorégraphie des Brigittines à Bruxelles avec le thème suivant, les nouveaux visages de la tyrannie, formatage des corps et formatage de la pensée.
Donc, formatage des corps et formatage de la pensée. Formatage de la pensée, à mon avis, ça ne colle pas. Pourquoi ? Parce qu'une pensée qui est formatée n'est pas une pensée. Une pensée qui est formatée, c'est une opinion que l'on répète d'ici à là, sans trop y avoir réfléchi. C'est ce que les Grecs, les philosophes grecs, appelaient la doxa, l'opinion. Donc, c'est l'opinion qui est formatée, qui est susceptible d'être formatée. C'est pas la pensée, parce que la pensée, elle, au contraire, se déploie donc dans une activité, qu'une activité de saisie, de construction, de reconstruction, d'énonciation, et qui est à chaque fois vive, qui suppose donc quelqu'un qui pense par lui-même et qui n'est pas dans le conti généralisé. Donc voilà, j'ai fait cette petite mise au point du philosophe, donc il commence par renacler devant un énoncé, une formulation, une question, et je proposerai donc plutôt formatage des corps, je vais y venir, et formatage des esprits, parce que ça, lui, ça peut se formater les esprits. D'ailleurs, c'est plus cohérent parce que nous sommes à la fois corps et esprit, vous l'avez remarqué, vous ne m'avez pas attendu pour le remarquer, et donc je pense que cette reformulation en formatage des corps et des esprits me semble un peu plus adéquate. Alors, je vais développer une première idée qui risque de vous surprendre. Pourquoi ? Parce que quand on parle de formatage, évidemment, on a en tête la définition actuelle du formatage. Or, qu'est-ce qu'on formate aujourd'hui ? On formate des disques durs pour y caser toute une série d'entrées dans lesquelles on peut mettre des données. Mais le formatage, ça on l'accepte, mais le formatage des esprits ou le formatage de la pensée, le formatage des esprits, ça a plutôt mauvaise presse, parce que nous ne sommes pas des disques durs. Et ça a mauvaise presse, et donc ça nous pose un certain nombre de problèmes, et donc on imagine là un processus violent qui rapte l'esprit des gens et qui conforme, qui tente de conformer avec violence donc les corps. Donc du coup, on imagine, comme c'est vraiment un processus violent, qu'on pourrait y échapper et même qu'on doit y échapper pour préserver quelque chose de sa propre liberté. Alors, c'est là où la première idée que je vais développer, qui risque de vous surprendre, parce que je veux dire qu'on ne peut pas y échapper au formatage des corps et des idées. On ne peut pas y échapper. La deuxième idée que je vais développer, c'est qu'il existe deux types de formatage. Il existe un formatage, je dirais, par le haut, et un formatage par le bas. Je vais m'expliquer sur tout ceci dans le cours de mon exposé, mais je voulais que déjà vous ayez un petit repérage de ce que je vais essayer de construire. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'on s'imagine que nous puissions être l'objet de processus qui s'appliquent sur nous. Avant notre époque, on ne parlait pas de formatage, puisque c'était une époque encore où l'informatique avait pris cette ampleur dans notre monde. Mais on parlait par exemple de conformisme. Souvenez-nous par exemple du film de Bertolucci de 1970, si mes souvenirs sont exacts, avec Trintignant, qui s'appelait Le Conformiste. Ce film d'ailleurs, si je me souviens bien, était tiré d'un roman de 1950 de Moravia, Alberto Moravia. Et à l'époque, il donc réfléchissait au processus conformiste par lequel on prenait quelqu'un dans la bonne bourgeoisie italienne et on en faisait un brave petit fasciste mussolinien. C'était ça la conformation donc, des deux esprits. Alors maintenant, on ne parle plus de conformiste, on parle de formatage et d'intérêt. Ce sont des idées évidemment qui sont en relation l'une avec l'autre. Donc, voici la première idée que je vais développer. Le formatage, on ne peut pas y échapper. C'est donc une triste nouvelle que je vous amène ce soir. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, je vais devoir un peu m'expliquer sur cette question. Pour y réfléchir, j'introduirai à une notion qui vraiment court tout au long de l'histoire de la philosophie et qui a pris une formulation, je dirais, scientifique au cours du XXe siècle. Cette idée a à voir avec la notion de... Alors, tenez-vous bien, je ne vais pas prononcer beaucoup de gros mots philosophiques, mais il y en aura au moins un. Et je tiens à ce que vous puissiez le mettre dans votre esprit, parce que je vais l'employer souvent, c'est la notion de néothénie. La néothénie, la néothénie humaine. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que la néothénie humaine, mais la néothénie humaine, c'est quelque chose qui se rapporte au fait que nous naissons, nous, humains, notoirement inachevé à la naissance. Notoirement inachevé à la naissance. Nous sommes, je rappelle cette donnée triviale, nous sommes des mammifères supérieurs, et parmi les mammifères supérieurs, donc nous présentons cette caractéristique. Nous sommes très inachevés à la naissance. Si par exemple vous prenez, je ne sais pas, disons, non pas un fils, d'homme, fils d'humain, mais un fils, par exemple, un enfant, un rejeton de cheval, qu'on appelle un poulain, quand le poulain sort du ventre de sa mère, la jument, vous le voyez au bout de quelques minutes essayer de se lever et de marcher. Il est légèrement flageolant sur ses jambes, mais au bout de 5 minutes, il est sur ses pattes et il va chercher. Donc les mamelles de ce mammifère de la jument. Quelle différence avec l'être humain, je l'en ai jamais vu, qui, à la naissance, même s'ils ne sont pas vraiment prématurés, à terme, à 9 mois, se lèvent et vont chercher le sein de leur mère. Bon. C'est une petite remarque comme ça qui ouvre à des questions beaucoup plus importantes, parce que ça signale donc que nous restons donc à terme 9 mois dans le ventre de notre mère. Mais par exemple, il y a des chercheurs du MIT, par exemple, qui ont fait des calculs pour savoir combien de temps la gestation humaine durerait si elle correspondait, par exemple, à celle du petit poulain dont je viens de parler. Eh bien, ils arrivent au chiffre de 18 mois. 18 mois. Donc, voilà, nous sortons trop tôt. Voilà la première chose, nous sortons trop tôt. Et, c'est-à-dire, je peux le dire autrement, nous sommes tous des prématurés. Nous sommes tous des prématurés. Alors, évidemment, il y en a qui exagèrent, qui sortent encore plus tôt que les autres, mais même ceux qui sortent à terme sont quand même déjà des prématurés. Alors, on a toute une série de signes de cette prématuration. Vous voyez que là, je parle du corps, parce que je vais parler après du formatage de ce corps inachevé. On a toute une série de signes de cette prématuration. Pour ne pas en oublier, je les ai notés. Cloison cardiaque mal fermée à la naissance, alors que chez les autres mammifères, c'est fermé. Immaturité postnatale du système nerveux pyramidal. Tout ça n'est pas bien relié donc au cortex et fait une désorganisation motrice qui va devoir être à laquelle on essaye de remédier ensuite par éducation. Insuffisance des alvéoles pulmonaires. C'est pour ça que les humains ont pris l'habitude, quand ils accueillent dans leur monde un nouveau petit terrien, le prenne et commence par lui taper dessus pour que il puisse respirer, sinon ses alvéoles ne seraient pas ouvertes. C'est quand même une drôle de façon d'accueillir les nouveaux venus, de commencer par le battre un petit peu pour lui signaler qu'on s'occupe de lui. Je continue. Boîte crânienne non fermée. Ça s'appelle la fontanelle. Alors ça, la fontanelle, c'est vraiment un signe de maturation sérieux, puisque voilà, notre organe le plus précieux, dit-on, notre cerveau est logé dans un bocal mal fermé. Donc voilà, le trésor qui donc est très mal protégé. Circonvolution cérébrale à peine développée. C'est-à-dire que la diversification cérébrale n'est pas encore complètement bien achevée. Absence du pouce postérieur opposable. Le pouce antérieur, lui, est opposable. Mais le pouce postérieur, contrairement à ce que vous voyez, par exemple, chez le petit singe, chimpanzé, qui peut, avec ses pieds, s'approcher aux branches, aux arbres, eh bien, nous, c'est un signe de néothénie. Ça n'a pas pu se développer suffisamment pour que ça devienne donc un pouce extérieur. Ça a d'autres avantages. L'avantage, c'est que ça permettra la station debout, qui n'est pas commune du tout chez le singe. Absence de système pideux. Absence de dentition de nez, de lait à la naissance. Bon. Quand les autres mammifères naissent, ils naissent avec des dents de lait, ils les perdent dans les jours qui viennent, et très rapidement, les dents définitives apparaissent. Si vous considérez l'humain, il doit attendre 6, 8, 9, 10 mois, 12 mois pour avoir des dents de lait, ce qui le laisse évidemment dans des difficultés par rapport à sa propre alimentation, et dès qu'il les a, il se les perd pour vivre à peu près édenté jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est quand même un drôle de destin. Voilà toute une série de signes. Il y en a d'autres, un pontin dont j'ose à peine vous parler, mais qui doit être quand même considéré, c'est chez les petits hommes mâles, qui se caractérisent de venir avec un petit zizi, c'est d'ailleurs ce qu'on regarde en premier pour savoir le sexe du bébé. Eh bien, ce petit zizi ne contient pas, contrairement au sexe des autres mammifères supérieurs, mâle, ne contient pas ce qu'on appelle l'os pénien. L'os pénien, ça indique bien son nom, c'est-à-dire que les autres mammifères, comme le chien par exemple, a un petit os pénien dans son sexe, ce qui, monsieur, peut être à l'occasion extrêmement utile. Pas besoin, je crois, de vous faire de dessin. Alors, cette prématuration spécifique de l'homme se solde, entre autres conséquences, par un allongement considérable de la période de maternage et par un développement sexuel en deux temps qui est marqué par une longue période de latence. Jusqu'à 5 et 6 ans, voilà, ça se développe selon l'anatomie sexuelle, et puis à partir de 5 ans, latence sexuelle, et ça reprend à partir de l'âge de 10 ans, 11 ans. Allez savoir, donc, avec cette sexualité bizarre en deux temps, pourquoi donc beaucoup d'entre nous ne sachent plus très bien à quel sexe ils appartiennent. Ils appartiennent, évidemment, parce que c'est marqué par donc cette longue période de latence. Alors, voilà donc un certain nombre de considérations sur le corps, sur notre corps tel qu'il vient au monde. Et ça peut se dire autrement, ça peut se dire que nous venons au monde inachevés à la naissance, inachevés dans notre nature. Nous sommes donc d'une nature humaine inachevée. C'est-à-dire que si nous étions à peu près complètement achevés, si je faisais par exemple un petit dessin qui dise « voilà par exemple ce qu'il faudrait pour être à 100% achevé ou à 90% comme les autres mammifères supérieurs », on pourrait dire que l'être humain n'est achevé qu'à, je ne sais pas, 50, 60%. Donc il lui manque quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'on se trouve ici. Parce que c'est quelque chose, il est donné ici, dans des lieux où on parle de culture. Donc, le complément à l'inachèvement naturel de l'homme, c'est la culture. Voilà donc pourquoi nous sommes aussi et éminemment des êtres culturels. Ça ne veut pas dire du tout que les autres mammifères n'ont pas du tout culture. Mais bon, c'est, chez eux, c'est 5 ou 10% qui peut se bricoler et avec difficulté se transmettre, mais chez nous, la culture est une dimension essentielle. Donc nous sommes un assemblage de nature inachevée et de culture. Le problème, c'est que cette culture, elle n'est pas donnée d'emblée. Elle n'est pas donnée d'emblée. Elle est éminemment différente selon les latitudes et selon la géographie, disons, et selon l'histoire. Ça évolue, ça change beaucoup, c'est éminemment variable, la culture. Donc on parle de la culture, mais en fait, ce sont des cultures qui se sont succédées dans l'histoire humaine, et ce sont des cultures éminemment différentes qui existent aussi à la même époque, comme par exemple encore à notre époque, bien qu'il y ait une grande unification culturelle du fait même de ce phénomène que vous connaissez, qu'on appelle la mondialisation. Alors, cet inachèvement de l'homme à la naissance est un vieux problème philosophique. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ça. Il y a eu une formulation scientifique au XXe siècle de la néothélie humaine par un très grand anthropologue et biologiste américain qui est mort il y a quelques années, qui était très connu en France pour ses magnifiques travaux, et qui s'appelle Stephen Jay Gould. Vous savez, le pouce du panda, enfin, toute une série de travaux. Et dans un de ses premiers livres aux États-Unis, qui est le seul qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle « Ontogénie et phylogénie », il a beaucoup travaillé la question de la néothélie humaine. Ça fait, depuis la naissance de la philosophie, qu'on se bagarre avec cette question. La première formulation de cette néothélie humaine, on peut la trouver vraiment dans les récits de fondation de l'Occident. Ça se trouve chez Hésiode. Vous savez, donc, il y avait Homère d'un côté, il y a l'Odyssée et Hésiode, par exemple, les Travaux et les Jours, qui ont donné le premier roman, disons, sur lequel s'est fondé l'espace occidental. 8, 9e siècle avant notre ère. Et puis ceci a été repris à l'époque de naissance de la philosophie, par donc philosophe incontournable dans notre espace occidental, Platon. Dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras, il revient donc sur la naissance de ce qu'il appelle les races mortelles, dont l'homme, l'humanité. Ça encore, c'est une très mauvaise nouvelle que je vous apprends ce soir, mais nous faisons partie des races mortelles. Il dit ça, les Grecs, parce que donc les autres, c'était les dieux qui étaient définis, eux, comme des immortels. Et donc, les premiers philosophes ont essayé de réfléchir à l'histoire de la naissance des races mortelles. Et ils ont imaginé un récit qui est à peu près le récit suivant. Donc vous savez que les dieux, donc les immortels, sont les descendants de toute une génération de dieux qui les a précédés. Donc là, il y avait les Olympiens, mais avant les Olympiens, il y avait ce qu'on appelle les Titans. Dans les Titans, ils ont été vaincus par les Olympiens. Olympiens qui ont pris donc la place des titans. Mais bon, les dieux, les anciens dieux des titans sont restés là, et il fallait bien qu'on les occupe à faire quelque chose, que les Olympiens les occupent à faire quelque chose. Et les Olympiens ont choisi deux titans, donc ces deux frères, qui sont bien connus dans l'histoire de la philosophie, puisque l'un s'appelle Prométhée, et l'autre s'appelle Épiméthée, et on dit, écoutez les amis, vous n'avez plus rien à faire maintenant, donc pour vous distraire, fabriquez donc des races mortelles, voilà, que nous pourrons regarder du haut de l'Olympe. Et je vous ai dit qu'il y avait deux frères, l'un s'appelle Épiméthée, Épiméthée aussi on l'appelle l'étourdi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, pour le dire familièrement, il fait des conneries, quoi. Et il y en a un autre qui s'appelle Prométhée. Prométhée, il répare les conneries du premier. Voilà, c'est bon, le rapport qu'ils ont. Et évidemment, pour créer les races mortelles, c'est Prométhée qui veut commencer, celui qui fait les conneries. Alors, comment se débrouille-t-il pour créer les races mortelles, dont les hommes? Eh bien, il a un sac, un grand sac, dans lequel il y a des attributs. Alors, parmi les attributs, il y a voler dans le ciel, porter un plumage, être tout petit, être énorme, avoir des dents d'un venin, avoir une vélocité extraordinaire. Bref, il y a toute une série donc d'attributs, de qualités. Et à chaque fois que se présente une espèce mortelle, qui est sans rien du tout, Épiméthée fouille dans son sac et lui donne une qualité. Toi, tu voleras. Toi, tu auras du venin. Toi, tu courras très vite. Toi, tu pourras nager sous l'eau. Toi, tu auras un plumage. Toi, etc., etc. Toi, tu pourras te glisser, c'est le serpent, sans te faire entendre, repérer, etc. Bon. Alors, beaucoup de races mortelles comme ça sont créées. Et arrive le tour des hommes. Et donc, Épiméthée regarde dans son grand sac. Le sac est vide. Le sac est vide. Donc, voilà une première façon de parler de la néoténie humaine. C'est pas achevé et on ne sait pas quoi faire avec cet animal non achevé, caractérisé par l'inachèvement. Et c'est évidemment là qu'intervient Prométhée pour réparer la bêtise de son frère. Comme il n'y a plus d'attributs, plus de qualités, il n'a qu'un seul recours, c'est d'aller chez les Olympiens et de voler aux Olympiens ce qu'on appelle le feu divin, c'est-à-dire le savoir divin, et de le donner aux hommes. Vous savez que Prométhée sera très sévèrement puni, ça a donné lieu à toute une série de représentations théâtrales, graphiques, pictural, etc., puisque la punition donc, de cet acte de Prométhée, c'est d'être enchaîné en haut du mont Caucase, cependant qu'un aigle vient dévorer le foie dans la journée, et que ce foie repousse la nuit pour que l'aigle, le lendemain, vienne pouvoir à nouveau dévorer le foie de Prométhée. Voilà, donc le prix à payer pour avoir sauvé, en quelque sorte, les humains. Alors, ce sauvetage est très intéressant, puisque ça consiste, dans un premier temps, à assembler des humains, comme nous sommes assemblés ce soir. Donc là, il n'y a pas trop de problème, parce que nous sommes abrités. Nous avons des habits. Mais bon, les premiers qui s'assemblent ne sont pas abrités, ils n'ont pas d'habits. Et ils n'ont pas de pelage pour se protéger du froid, puisqu'ils sont sans qualité. Et donc, ce que Prométhée fait, c'est le feu sacré. Donc, on crée un feu et on apporte donc ce qu'on appelle des habits pour que les hommes, les femmes, qui sont sans pelage, ne meurent pas de froid et qu'ils puissent donc se couvrir. Alors ça, c'est le premier acte de culture de l'humanité, parce que ça signale donc une loi qui arrive. La loi, c'est tu dois te couvrir, tu dois te vêtir. Et apparemment, on suit toujours cette loi, puisque je n'en vois aucun d'entre vous qui ait pris la poêle, ni moi non plus, et donc nous suivons toujours cette loi humaine, qui est une loi de pacification des relations. Parce que, évidemment, quand les individus sont nus, s'ils sont nus ensemble, eh bien, ils donnent à voir quelque chose de leur anatomie où se marque quelque chose pour, comme une attirance éventuelle pour l'autre. Et donc, la première loi, c'est, les Grecs appelaient ça aidos. Aidos, c'est la vergogne. Il faut donc que, par rapport à la vergogne, tu puisses entrer dans des relations de respect avec l'autre. Et les relations de respect avec l'autre, c'est d'abord de se couvrir. C'est ça qui fait loi. On a donc une culture, une forme de culture entre les individus. Donc, ils rentrent dans des relations qui sont des relations qui peuvent être pacifiées justement par la culture. Alors, ça peut se diversifier, évidemment, cette culture, jusqu'à prendre des formes que nous lui connaissons dans ce magnifique bâtiment où, à nouveau, nous sommes des humains assemblés, habillés, autour d'un feu imaginaire de ce qu'on essaye de construire comme pensée maintenant. Et donc, nous voici à nouveau assemblés. C'est, je dirais, ce qui prouve que vous êtes des néothènes, que vous soyez ici. Parce que ça veut dire qu'à votre grand âge, il faudrait que je mette mes lunettes, mais il y a des gens parmi vous qui ont 20 ans, il y en a qui ont 40, il y en a qui ont 50, il y en a qui ont 60, 70. Moi-même, je ne me sens plus très bien. Mais ça veut dire, si vous êtes ici, dans ce lieu de culture, que vous êtes encore en quête de quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes encore en quête de ce complément ou de ce supplément qui s'appelle la culture pour essayer de vous achever. Achever au bon sens du terme. Pas au sens de vous exterminer, parce que quand on n'a pas de culture, on s'extermine, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire au sens où on essaye de construire quelque chose pour soi-même et dans le rapport avec les autres. On ne voit pas d'animaux qui, à 60 ans, se réunissent entre eux pour se donner des représentations théâtrales, pour écouter des conférences, on ne connaît pas tellement. Et donc, nous sommes quand même des animaux un peu singuliers, caractérisés donc par cette étrange rencontre. On ne peut prendre une culture, je ne dis pas manquante, parce qu'on a des corps, par des lois anatomiques, physiologiques, etc. Mais quand même inachevé, et donc qu'on doit compléter par ce bout de culture. Donc voilà pourquoi je vous disais qu'ils font un formatage des corps, parce que nous sommes inachevés. Et le formatage, aujourd'hui, on pourrait dire d'un autre mot après ce que je viens de dire, ça pourrait s'appeler finalisation. Il faut finaliser ce corps inachevé. Il faut qu'on lui donne une allure, une forme, il faut qu'on puisse lui faire tenir sa place dans le monde par rapport à des autres, par rapport à toute une série d'objets que l'on se donne. Donc, pour cela, il faut bien que ce corps soit formaté, finalisé. Ça s'appelle donc la culture. Si ce rapport clair, donc entre nature, culture et nécessité du formatage pour la finalisation des corps, on peut aborder maintenant la question suivante. La question non pas de la culture qui existe comme objet philosophique, mais qui n'existe pas comme objet pratique, parce que ce qui existe sont des cultures souvent très différentes les unes des autres. Alors, cette culture a aussi, elle, besoin de se construire, de s'organiser, de se structurer. Elle a des formes multiples. Ça touche les arts de la discursivité, ça touche les arts de la représentation, représentation picturale, de la représentation narrative, de la représentation théâtrale, de la représentation chorégraphique. Ça touche tout ce qui a à voir avec les noms, la loi des noms. On essaye de construire. Tout ça, c'est une construction humaine progressive. Hein. On n'est pas né avec ça. C'est une invention humaine, la culture. Donc ça touche les nombres, ça touche la culture, beaucoup d'autres choses. Ça touche donc ce que je vais essayer de me construire comme objet pour me donner un sens à ma vie. Parce que je suis né sans mode d'emploi. Peut-être vous l'avez eu, mais moi, on ne me l'a pas donné. Et donc, je suis un être un peu sartrien. L'être sartrien, il se définissait par cette question. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Et donc, la meilleure réponse que l'on donne en général, c'est qu'on construit des objets. On bricole des objets. Vous voyez, là, je suis en train de bricoler une conférence. J'ai trois notes sur mon papier, j'essaie de bricoler une conférence. Il y a des gens ici qui sont en train de bricoler un spectacle, ce sont des chorégraphes, des danseurs, etc. Donc on bricole. On bricole tous des objets. Et si on réussit à bricoler un objet, ça nous fait plaisir. Pourquoi ça nous fait plaisir? Parce que s'il y a un objet qui a été fabriqué, c'est probablement parce qu'il a fallu un sujet pour le fabriquer. Et donc, j'en déduis que si j'ai fait une œuvre, si j'ai fait un objet, je dois exister comme sujet pour avoir fabriqué cet objet. C'est ça, c'est une grande question contemporaine, hein, je vous signale, parce qu'il y a des gens qui sont pris dans des relations de survie à l'heure actuelle, qui sont privés de la fabrication d'objets, qui sont dans des cadences avec une division du travail qui font qu'ils répètent le même geste à l'usine, à l'informatique, au bureau, toute leur vie, et ils ne fabriquent pas d'objets. C'est une question très difficile pour un être humain privé, donc de la réalisation, je veux dire, de l'objet, de l'œuvre, réalisation objectale, parce que ça le prive de réalisation subjective. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. Et donc c'est une question vraiment importante. Donc fabrique d'objets en tout genre, en tout genre. En tout genre. Ça peut aller, je vous l'ai dit, de la narration, de la représentation, au nombre, en passant par, je ne sais pas, quelqu'un qui fabrique un beau bouquet de fleurs, quelqu'un qui fabrique dans son jardin, voilà, telle variété de roses, tel bon légume, qui sait faire de l'excellent pain. Tout ça, ce sont des objets qui ont une égale dignité. Égale dignité les uns par rapport aux autres. Alors, il se trouve que dans cette profusion d'objets que nous fabriquons depuis la nuit des temps, en général, ils sont organisés autour de ce que j'appellerais une figure centrale. Il y a une figure centrale organisatrice qui distribue et organise ces différents objets dans une. La culture, ça nous donne donc des idées pour qui ont à voir avec un savoir vivre, un savoir mourir, avec des rituels, un savoir musiquer, chanter, un savoir danser, un savoir parler, un savoir peindre, tous les savoirs que vous pouvez imaginer sont donnés par cette culture. Et sont toujours organisés autour de ce qu'on appelle, de ce que moi j'appelle, un grand sujet. Pourquoi j'appelle ça un grand sujet? C'est un grand sujet parce que nous sommes des sujets, nous, en rade, des petits sujets inachevés. Donc nous sommes moins que des sujets. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un sur-sujet. Parce que nous sommes moins que des sujets, parce qu'on doit bien faire cette rencontre avec cette pour advenir à soi-même et advenir aux autres comme sujet dans une réalisation subjective et dans une socialisation avec les autres. Donc nous, moins que sujet, nous postulons un sur-sujet. C'est quelque chose qui a beaucoup amusé les humains depuis la nuit des temps. Ils ont passé leur vie à ça, à créer ce qu'on appelle des dieux. À créer des dieux. Et apparemment, ça continue aujourd'hui, mais pas toujours pour le meilleur. Donc on s'est amusé à ça depuis longtemps, à créer des dieux. Alors ces dieux portent des noms multiples. les dieux, ça peut être des esprits, ça peut être au début, bon, si on imagine ce que ça peut être, la forme que l'on lui donne, par exemple, c'est le totem. Le totem, donc, c'est ce qui concentre les esprits des ancêtres dans un animal fabuleux qui apporte la puissance au groupe qui se prosterne devant le totem et donc qui prend quelque chose de cette puissance supposée pour donc que la tribu puisse tenir. Donc le totem. Mais ça peut être des esprits, ça peut être, si vous allez du côté de l'Asie, ça peut être le cosmos. Si vous revenez en Occident, ça peut être les forces multiples de la nature, ce que les Grecs appelaient la physis, la physique, si vous voulez. La physique, c'est les forces de la nature. Et donc, chez les Grecs, ça a donné lieu donc à la création de toute une série de dieux qui correspondaient à ces forces de la nature. Par exemple, Poséidon, c'était le dieu de la mer. Il y avait celui qui était le dieu des volcans, il y avait toute une série de dieux qui correspondaient à ces forces de la nature, et on se demandait souvent ce que ces forces de la nature nous voulaient. On ne savait pas, c'est pour ça qu'on a inventé un personnage qui s'appelle la Pythie. La Pythie, c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc la Pythie va interroger... monde caché, le monde des dieux, nous sommes dans un monde d'apparence. Mais on l'a dit, a accès, avec des moyens un peu particuliers, à un monde caché qui organise notre monde d'apparence. Donc elle ouvre une fenêtre imaginaire sur ce monde caché, elle dit, ben voilà, ils vous veulent ceci, ils vous veulent cela, etc. Alors, c'est bien, donc, ça s'appelle un oracle. Donc l'oracle, ça dit quelque chose de votre destin. Alors tout ça est bien, mais le problème, c'est que chez les Grecs, nous sommes dans le polythéisme. Il y a plein de dieux, et ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, si vous lisez, par exemple, l'Odyssée, il y a Poséidon qui, pour Ulysse, veut quelque chose, et il y a Athéna qui, pour le même Ulysse, veut le contraire. Et donc, on est tiraillé chez les dieux grecs, parce qu'ils sont plusieurs, et ils ne sont pas tous d'accord entre eux, et donc on ne sait pas ce qu'ils veulent, je sais pourquoi, donc il faut les interroger d'une façon extrêmement régulière. C'est ce qui donne aussi chez les Grecs le sens du tragique, parce qu'il y en a un qui veut ceci et l'autre qui veut cela, et c'est irréconciliable. Et nous sommes donc dans une situation tragique, puisque je ne sais pas choisir entre ce destin-ci et ce destin-là. Ça se paye des fois de façon très très chère. Vous voyez par exemple le brave Oedipe. Oedipe qui a intéressé beaucoup Sophocle, qui a été un personnage théâtral, philosophique et anthropologique et épigrammatique extrêmement important. Oedipe, à un moment donné, jeune homme, il interroge l'oracle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, l'oracle dit, je traduis en français contemporain, vous parlez grec à l'occasion, c'est il faut que tu partes tout de suite parce que sinon tu vas tuer ton père et tu vas sauter ta mère. Donc, je pars. C'est ce qu'il fait. C'est ça, l'oracle. Pour échapper à ce qu'on appelle. Ils sont funestes destins. Et évidemment, il ne sait pas qu'il est chez ses beaux-parents, et que sortant de chez vos parents, il va rencontrer ses parents et il va réaliser exactement l'oracle. Sur une route du Péloponnèse, il y a un accident, des voitures à l'époque, il s'engueule et il tue un type, c'est son père. Après, il va à Athènes. Il répond donc à la question, et comme il délivre tel du fléau de la peste, il a droit à épouser la reine de tel qui est sa mère. Donc, vous voyez, le destin est opaque. Le destin est opaque chez les Grecs. C'est opaque aussi en Afrique, hein, parce qu'ils interrogent sans arrêt l'âme des morts, les esprits, l'animisme, etc. Donc, ça crée une humanité, une culture humaine extrêmement compliquée, pour que les individus s'y retrouvent un petit peu dans ces conflits multiples de forces. Arrive dans l'histoire humaine un moment important, c'est que tout ce bordel de dieux contradictoires et multiples, ça se résout. C'est le monothéisme, l'invention du monothéisme, dans toutes ses versions. Monothéisme, donc, né à Jérusalem, réinventé à Rome, réélaboré quelques siècles plus tard sous le nom d'islam, etc. Ça a l'avantage de fédérer, disons, ces formes multiples, et donc de donner quand même des indications assez précises à l'humanité sur ce qu'elle doit faire et pas faire. C'est même consigné, ça, dans un texte, c'est le texte saint qui semble être donné à l'origine par Dieu lui-même aux hommes. Voilà donc une vérité révélée. Elle n'est pas démontrée, cette vérité. Elle est révélée, c'est-à-dire c'est une révélation première qui donc doit se colporter de génération en génération pour que ça, cette assemblée multiple d'êtres que nous sommes, puisse vivre. Chacun sa vie et puisse vivre ensemble. Donc il y a ce récit saint, cet écrit saint qui est donné à chacun. Et évidemment, dans cet écrit saint, il y a toute une série de prescriptions qui s'adressent aux individus. Par exemple, il y a ce fameux texte qu'on appelle le Décalogue, que vous connaissez peut-être sous le nom de 10 commandements, mais qui s'appelle aussi les 10 paroles. Les paroles, c'est les choses que tu dois suivre. Parce que si tu ne les suis pas, il va t'arriver de sérieux problèmes. Les 10 commandements. Et donc ça permet aux gens de s'y repérer un peu, de savoir comment s'orienter dans cette multiplicité. S'y repérer, ça veut dire formater les esprits des gens. C'est pour ça que je dis qu'on n'échappe pas au formatage depuis la nuit des temps. C'est parce qu'il y a des commandements, des instructions qui s'adresse à vous pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, et que ça s'est propagé pendant tant de générations en génération, sous des formes différentes peut-être, mais homogènes au moins dans telle ou telle culture. Alors, évidemment, le problème des commandements, c'est que c'est un peu long à porter, des commandements. Je ne sais pas, par exemple, je me souviens une partie du 10e commandement. J'ai les judéo-chrétiens, les 10 paroles, donc le 10e, dans le 10e, il y a tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est vraiment important. Parce que s'il y a des choses amusantes dans la vie, c'est quand même de regarder pendant longtemps la femme de son voisin. Eh bien, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas si vous suivez les paroles du Très-Haut. Ce que j'appelle le grand sujet. Le grand sujet ne veut pas. Il ne veut pas que vous regardiez la femme de votre prochain, ou l'homme de votre prochaine. On ne peut pas. Disons que ces cultures, on peut les nommer comme étant des cultures répressives, puisque ça dit ça tu dois et ça tu ne dois pas, tu ne dois surtout pas. Donc on sait que tu as envie de faire. On sait que tu veux convoiter la femme de ton prochain ou l'homme de ta prochaine, mais ça, tu ne dois pas le faire. Bon. Si jamais tu le faisais, tu n'es peut-être pas complètement perdu, il faut que tu ailles te confesser, tu auras un certain nombre de contritions à faire, mais bon, tu auras une peine à payer, une peine symbolique à payer, mais il ne faut pas recommencer, sinon tu vas rater l'essentiel, parce qu'il y a une promesse, hein, ça, l'essentiel, c'est la vie éternelle. Parce qu'on est toujours dans cette histoire-là, dans cette histoire de mortel, qui nous embête bien d'être mortel. Parce que après, ça s'arrête, simplement. Et donc, on s'est formé comme beau sujet avec les autres, etc. Et tout ça, pourquoi on va mourir? Il y a une incohérence là-dedans. C'est mal foutu, franchement. Donc, les récits prennent ça en charge aussi, en disant quoi? Tu vas mourir. Mais, si tu suis les 10 paroles, tu vas revivre dans une vie éternelle. Donc, ça fait plaisir à entendre, ça. ça donne quand même ce qu'on appelle une sérieuse consolation. Et c'est pas complètement inutile, donc je fais ça pas tout à fait pour rien, parce que enfin j'aurai la vie éternelle. Alors, vous voyez bien que dans toutes ces formes différentes que prennent la culture, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut représenter ce grand sujet qui ordonne toute cette culture. Le représenter. Je dis représenter, pas représenter, parce que ça veut dire qu'il faut lui donner une voie, une allure, une résidence, une présence, des volontés, et que tout ça, c'est en gros fait par des artistes. C'est fait par des artistes parmi vous, c'est vous qui construisez le grand sujet. C'est ce qu'ont fait les artistes jusqu'à maintenant, les peintres qui représentaient la crucifixion, représentaient la descente de croix, qui représentaient, le Golgotha, Golgotha, etc. Ou qui représentaient les grands dieux du polythéisme grec. Ils ont donné à voir, cette figure du ou des grands sujets dont vous avez besoin pour vivre parce que vous en tirez quelques bénéfices. Sinon, vous seriez complètement perdu avec votre non-finalisation. Donc, eux, ils vous disent quelque chose. Eux. Là, je sais très bien qu'à ce moment-là, on peut me poser une question. Une question, vous pourrez la poser. Alors, tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Je répondrai, et je n'irai pas plus loin. Je crois que Dieu existe, au moins dans un lieu, dans la tête des hommes. Ailleurs, je ne sais pas. Mais je suis sûr que Dieu existe, au moins dans un lieu, dans la tête des hommes. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin parce que autrement, sans cette figure qui leur dit, et qui leur dicte, et qui leur interdit, leur dit, vas-y. Et ça, surtout pas. Sans cette figure-là, ils sont perdus. Donc il faut bien un formatage des esprits, et depuis la nuit des temps, on a ce formatage des esprits. Si vous allez voir un peu, Patrick tout à l'heure a dit mon intérêt pour le champ psychanalytique, si vous allez voir un peu du côté d'un dénommé Freud, qui était athée, juif athée, il a écrit un livre qui s'appelle « Malaise dans la civilisation » en 1929. Et bien, il dit autre chose. Il dit « La civilisation est un malaise ». Il dit autre chose. La civilisation, c'est pas un truc où on rigole, etc. C'est un malaise. C'est malaise dans la civilisation et malaise de la civilisation et la civilisation comme malaise. Pourquoi? Et bien, parce que si vous voulez vivre avec les autres, vous ne pouvez pas tout faire. Et donc, vous devez vous réprimer. Vous devez vous réprimer. Vous êtes, encore une fois, habillé ce soir, et moi aussi. Donc, vous avez subi, dans votre tête et dans votre corps, vous êtes appliqué à vous-même cette répression-là. C'est ça d'où vient la malaise. Ça vient du fait que pour vivre, il faut se réprimer. C'est une forme laïque de ce que disaient les dix paroles, je me dis Freud. C'est une forme laïque. Il parlait là de répression pulsionnelle. C'est quoi la pulsion? La pulsion, c'est le mot grec, pouléré, pulsion. Ça pousse. Il y a un truc en vous qui pousse. Ça vous pousse vers quoi? Vous savez pas, mais ça vous pousse. Les animaux, eux, ils savent. Ils n'ont pas de pulsion, les animaux, ils ont des instincts. Parce qu'ils sont finalisés. Ils savent quelle place ils occupent dans la hiérarchie des espèces. Donc ils savent quel est leur partenaire sexuel, celui qu'ils veulent. Ils savent par qui autre espèce ils vont être dévorés. Donc il faut qu'ils se prémunissent s'ils ne veulent pas être dévorés. Ils savent quelle espèce ils doivent dévorer pour continuer la vie. Donc ils ont des instincts. Ils sont, comme disait Kant, tout conduit par nature. Tout conduit par nature, par instinct, à vouloir ceci, ceci ou cela. Mais nous, qui ne sommes pas finalisés, nous courons derrière, nous voulons ceci et cela et cela et cela. Donc, nous n'avons pas cette finalisation. Nous sommes poussés, sans cesse poussés, incessamment poussés, et on ne sait pas vers quoi. On dit à un moment donné, ah, c'est toi, voilà, c'est toi, je suis poussé vers toi. Regardez-moi, je suis en train de vous regarder. Je dis, je suis poussé vers toi. Bon. Vous êtes contente. Et deux jours après, je dirais, non, finalement, excusez-moi, je me suis trompé, je suis poussé vers toi. Voilà, je suis poussé vers ceci, cela, cela. Et donc, il y a une versatilité, évidemment, du désir humain, qui est à la fois quelque chose de très très beau, mais qui ne simplifie pas la situation. Donc nous sommes poussés et nous ne savons pas que construire. C'est pour ça donc qu'il faut réprimer un peu cette poussée, de façon à ce que cette poussée ne puisse pas s'exprimer, parce que souvent la poussée, c'est aussi une poussée d'attraction de l'autre. Donc si je suis vraiment attiré par toi, si je n'étais pas habillé là tout de suite et tu n'étais pas habillé, je te sauterais dessus. Et puis on verrait bien ce qu'on verrait. Mais bon, je ne peux pas, donc je me réprime. L'autre se réprime aussi. Nous réprimons. Et évidemment, ça fait partie, ça, de la civilisation, cette répression pulsionnelle nécessaire. Et ce fait d'être poussé sans arrêt implique donc un certain nombre de limites qui sont posées par des lois. Alors, je résume cette première partie. Donc, nous sommes donc dans la situation d'être supposés donc un grand sujet qu'il faut construire pour qu'il nous dise et nous dite quelque chose. Donc, il faut le raconter, des écrits, il faut le peindre, il faut montrer ses résidences, il faut construire des monuments à sa gloire, ça s'appelle des temples, des églises, des synagogues, des mosquées, etc. On n'arrive pas à construire des monuments à sa gloire. Et en même temps, dès qu'il arrive, on sent qu'on est réprimé. Donc on le veut absolument, et dès qu'il arrive absolument, on n'en veut absolument pas. C'est quand même compliqué, hein, la situation humaine. Donc voilà la double situation dans laquelle nous sommes. Construire donc des grands sujets sous toutes ces façons possibles, et dès que nous subissons un certain nombre de ces lois, refuser ces lois parce que nous sommes réprimés. Alors, je pourrais examiner ceci dans différentes cultures et civilisations, mais pour aller un peu plus loin dans mon propos, la deuxième partie de ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a eu tout un temps dans l'histoire humaine où nous étions, disons, formatés par le haut. C'est ça que j'appelais le grand sujet, formaté par le haut, parce qu'il nous disait « c'est pour ton bien ». C'est pour ton bien que tu dois faire ceci, tu dois faire quelque chose de ta vie, tu dois, etc., etc. Bon. Donc, c'était un formatage par le haut. On appelait ça autrefois l'élévation. On s'élève. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que le terme « élève » vient de ça. L'élève, c'est celui qui s'élève. L'élève, c'est celui qui s'élève parce que, donc, il veut une instance donc lui donne un sens par rapport au désordre général du monde et de sa condition tout à fait particulière, singulière dans ce monde, comme donc mammifère non achevé, non fini, non finalisé, non qui n'est plus tout conduit par nature. Et bien, quand on n'est pas tout conduit par nature, on se débrouille pour être tout conduit par culture. Et donc on construit ces formes et ces visages du Très-Haut. Sauf que quand il s'applique, nous souffrons de répression. Alors, c'est là où je vais aborder la dernière partie de ce que je voulais vous dire cet après-midi. c'est que nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire humaine, puisque dans notre histoire humaine, toute une série de grands récits se sont succédés, des grands récits qui chantaient la figure du très haut, tel ou tel ou tel très haut. Par exemple, la fugitive des Grecs, avec toute la mythologie des Grecs, toute la littérature, par exemple, des Indiens, sur leurs différentes formes religieuses, les sagesses chinoises, etc., etc. Nous avons construit tout ça, tout ceci qui donnait un sens à notre vie. C'est ce qu'on appelle les grands récits. L'humanité ne peut pas vivre, n'a pas longtemps pu vivre sans grands récits. Des grands récits, donc, qui étaient enseignés, traduits, colportés de génération en génération pour donner la loi de l'élévation. Il est arrivé à un moment dans l'histoire humaine, je pourrais revenir de façon beaucoup plus précise sur quand, au juste, où le formatage n'a plus eu lieu par le haut, mais par le bas. Je vais m'expliquer maintenant, ce sera ma dernière ligne droite, sur ce formatage par le bas dans lequel nous sommes maintenant. Il est arrivé un moment dans l'histoire où les grands récits s'avérant trop répressifs par rapport à notre désir, à nos appétences. On s'est imaginé pouvoir se défaire de ces grands récits. Et on a réussi au-delà de toute mesure. Et on a remplacé les grands récits par des petits récits. Le grand récit, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, toute une communauté. Parle, même culture, même langue, etc., et qui élève donc ses enfants dans cet esprit-là. Le petit récit fonctionne d'une façon différente. Le petit récit s'adresse à chacun de nous. Non pas pour dire « ne convoite pas la femme de ton voisin, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela », le petit récit s'adresse à nous pour dire « et fonce, t'es vraiment un nul si tu ne le fais pas, il faut que tu y ailles, jouis, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? De toute façon, on a tout ce qu'il te faut pour te rendre heureux, pas maintenant, pas plus tard, dans une autre vie qui viendra peut-être pas, mais tout de suite, on peut te rendre heureux tout de suite. Donc ce n'est plus une promesse différée vers... Donc une vie supposée après la mort, c'est une promesse qui peut se réaliser immédiatement. Et comment peut-elle se réaliser immédiatement? Ben écoute, tu veux être au centre de ta communauté? Voilà. Donc, tu communiques avec qui tu veux, quand tu veux. Tu veux des amis? Facebook te donne des amis. Tu veux... Tu es un peu excité, tu veux voir un film porno? Un film porno. Tu veux être au centre de ta banque? Soit avec... je ne sais pas comment ça s'appelle en Belgique, mais en France, il y a plusieurs banques qui disent avec ma banque, parce que c'est ma banque. Avec ma banque, je suis au centre du système. Je suis au centre du système. Donc tout est devenu mien, tous ces petits récits s'adressent à moi pour me promettre une réalisation immédiate. Qu'est-ce qui a permis ce tournant? Ce qui a permis ce tournant, je vous ai dit 1929 tout à l'heure, malaise en civilisation, Freud, il avait raison Freud, puisque 4 mois plus tard, commençait la crise de qui s'est soldé par une des plus grandes catastrophes mondiales. Les bulles spéculatives qui existaient aux États-Unis ont explosé, ce qui a détruit la finance mondiale, ce qui a entraîné l'ère de la guerre disparaissant, les entreprises ne sont plus financées, tout a fermé partout, 5 millions de chômeurs en Allemagne. Donc nous sommes en 1922-23, et donc là, l'homme providentiel arrive, il s'appelle Hitler. La guerre, 1945, et après 1945, le terrorisme vaincu, voilà enfin un new way of life, American way of life, donc qui va vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Pour vous déplacer, il y a des manœuvres. Pour le reste, il y a des mégaros, dans lesquels vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin. Pour le reste, vous avez donc cette instance nouvelle qui remplace l'ancien grand sujet et qui s'appelle le marché. Le marché avec un grand M. Demandez ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, le marché vous le fournira immédiatement. Vous allez sur votre téléphone portable, vous voulez tel objet, vous appuyez dessus, vous allez à Amazon, pof, vous cliquez. Le lendemain, c'est dans votre boîte aux lettres. Et on dit qu'Amazon est en train de préparer des drones pour vous amener l'objet dans les 10 minutes ou un quart d'heure qui vient. Donc vous appuyez sur le bouton, paf. Donc le marché, c'est une instance qui est supposée pouvoir répondre à toutes vos appétences, en vous apportant donc un produit manufacturé, un service marchand ou un fantasme virtuel sur mesure produit par les industries culturelles. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ben voilà, c'est bien, on est heureux. Voilà, on est heureux, on a tout qui se réalise comme ça, en appuyant sur le bouton, pof. Voilà, ça y est, plus de répression. Tranquille, les grands sujets nous emmerdent plus. On a déjà tout fait. Les petits récits nous disent, vas-y, fonce, jouis. Si tu fais pas cet état, t'es un con, quoi. Donc fonce, qu'est-ce qui t'empêche? Ça marche très très bien. Ça se généralise dans le monde entier sous le nom de mondialisation. Tous les anciens grands récits sont en train dans le monde de chuter les uns après les autres grâce au marché qui est constitué de toute une série de micro-récits qui sont de forme récit publicitaire. Voilà, on a ce produit, c'est pour toi. On a ça, c'est pour toi. On a tout ce qu'il faut. Bon. Et c'est en train de détruire les anciennes cultures et d'installer une nouvelle culture. Culture branchée, culture de l'objet, etc. etc., etc. Alors, bon, pourquoi faudrait-il résister à ça, puisqu'enfin on a trouvé la solution à partir de la crise de 1929 et de l'établissement à partir de 1945 d'un mode de vie nouveau, connecté, corrélé donc à cette puissance infinie qui s'appelle le marché. J'ai écrit il y a quelques années un livre justement qui s'appelle Le Divin Marché, parce que c'est un nouveau dieu. Nouveau dieu, non plus avec un récit central, mais avec des milliers de petits récits, des milliards de petits récits qui s'adressent à chacun d'entre vous, parce que maintenant vous êtes segmentés. C'est le boulot des gens qui font du marketing, de vous segmenter en disant attention, celui-là, c'est pas tout à fait le même que celui-là, c'est pas le même que l'autre encore, il faut vraiment les cibler bien pour lui donner le produit véritablement adéquat, qui soit heureux. Voilà. Voilà, je pourrais arrêter ma conférence ici, dire, ben voilà, que vous voulez de plus, vous êtes heureux. Donc, voilà, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'autre chose que de consommer. Vous n'avez pas besoin de venir ici. Ça ne sert à rien d'imaginer qu'il faut construire des relations entre les individus, etc., la culture, se donner des choses à voir. Non, ça ne sert à rien. C'est fini, tout ça. C'est l'ancien mode. C'est dépassé. Je pourrais donc arrêter ma conférence ici, et je pense que vous ne seriez pas content. Parce que vous me diriez, est-ce que tu n'oublies pas quelque chose dans notre bonheur actuel, notre supposé bonheur actuel? Alors, qu'est-ce que j'oublierais? Ben, j'oublierais que ce qu'on vous fournit,
ce sont ce que j'ai appelé tout à l'heure des produits manufacturés. C'est-à-dire qu'il y a des marketingmen qui ont fabriqué le produit pour vous et qui vont dire ça c'est pour toi, exprès pour toi. Mais c'est un produit manufacturé, c'est-à-dire que c'est un produit qui donc est accompagné d'un discours qui dit avec ça tu vas te libérer. Tu vas te libérer avec ça. Et si tu veux rester bête, nul et aliéné, ne le prends pas. Mais si vraiment tu veux te libérer, prends-le. Alors il faut quand même que je vous donne un petit exemple, si vous avez encore un peu le courage de m'écouter, je ne sais pas. Je vais vous donner un petit exemple sur la façon dont on a libéré les femmes. C'était la première grande expérience qui a eu lieu justement en 1929. En 1929, donc, on a libéré les femmes. Vous étiez pas au courant ? Non ? Il faut que je vous l'explique, parce que vous avez raté un épisode important. Donc, en 1929, il y a un certain nombre de patrons de l'American Tobacco, à New York, qui se disent, bon, on a un problème, parce que il y a la moitié de l'humanité qui ne fume pas. Les hommes, ça fume, les femmes, ça fume pas. Pourquoi ça fume pas ? Parce que si une femme fume dans la rue, elle est considérée comme une dépravée, etc., etc. Donc elle n'ose pas fumer dans la rue, elle se planque chez elle. Mais ça ne va pas du tout. Il faudrait que pour vraiment l'accroissement du produit intérieur brut de notre pays, pour l'augmentation de la richesse globale, que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, fume. Il faut les libérer. Libérer, c'est pour femmes qui ne fument pas. Et donc, on a entrepris un mouvement de libération des femmes tellement intéressant que, pour s'atteler à ça, on a été chercher le neveu de Freud, qui s'y connaissait un petit peu, quand même, dans la lecture des désirs des humains. Et donc, on a été le chercher, il est venu aux États-Unis, c'est lui qui a fondé le marketing aux États-Unis, c'est le neveu de Freud. Edward Bernays, il s'appelle. Et son premier boulot, à Edward Bernays, ça a été de répondre donc à la question de l'American Tobacco. Et question, comment rend la cigarette désirable pour les femmes ? Et il a commencé à travailler et il a construit tout un discours, des petits récits à l'endroit des femmes. Et il a été voir pour ça, il a écrit à Freud lui a dit je ne m'occupe pas de ces histoires-là, c'est pas ça mon travail, je ne veux pas. Mais il a été voir le fondateur de la société psychanalytique américaine, qui s'appelait Brill, et avec lequel il a mis au point une stratégie. Et la stratégie était la suivante, c'est de dire, bon, la cigarette, qu'est-ce que c'est ? C'est un attribut des mecs qui ont un petit pénis portatif, qui se mettent ça comme ça au bec et puis qui en imposent à tout le monde avec donc ce petit brûlot portatif qui se mettent au bec. Donc il faut dire aux femmes qu'elles piquent le pénis des mecs et qu'elles s'en emparent, qu'elles en aient un elles aussi. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour de Pâques de 1929, il y a cinq magnifiques femmes, mannequins, qui ont descendu la 5e avenue à New York avec des cigarettes au bec. Tout le monde était sidéré parce que dans l'Amérique puritaine, évidemment, des femmes qui, dans pleine journée, bien habillées, passent avec des cigarettes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elles ont allumé leurs cigarettes et au moment où elles allumaient leurs cigarettes, le nom a été donné à ces cigarettes « Torches of Freedom », les torches de la liberté. Évidemment, dans une ville où il y a la statue de la liberté portée par une femme, ça signifie quelque chose. C'est ma petite statue de la liberté, voilà, je l'allume, ma torche de liberté. C'est mon petit pénis portatif, donc les mecs, j'en ai plus besoin. Je suis libéré des hommes. Donc voilà comment on a libéré les femmes. C'est le grand mouvement de libération des femmes. Alors, il y a un petit inconvénient, c'est qu'on les a addictées à la cigarette. Ah oui, voulez-vous toute libération a un prix. Vous êtes addicté maintenant à la cigarette comme les hommes, mais vous êtes libre. Voilà donc un exemple de problème que ça produit, ces produits, ces objets manufacturés, ça produit ce qu'on appelle des addictions. Donc nous entrons dans des modalités addictives, parce que ce truc-là qui me met vraiment au centre de toutes mes relations, où je peux avoir accès au monde entier, à toutes mes relations, parler, avoir l'image des gens au bout du monde, etc., il va être démodé. Il va être démodé, donc je ne pourrai pas faire tout ce que je veux, donc je ne serai plus au centre du système. Donc si je me promène avec un truc démodé, je vais être un ringard. Mais est-ce que je veux être un ringard? Non, je veux simplement être à la page. Donc je vais m'acheter le prochain iPhone, iPod, Samsung, etc. Et donc nous entrons pour notre bonheur, notre supposé bonheur, dans des cycles qui sont des cycles d'addiction. Parce qu'il en faut toujours un. Je dis pourquoi addiction? Qu'est-ce que c'est qu'un addict? Un addict, c'est celui qui vit avec le manque. C'est-à-dire que je me shoote, ça y est, ça marche. Et puis 2 heures après, 5 heures après, le lendemain, il m'en faut un autre. Et puis après, puis après, puis après, puis toujours un autre, puis toujours un autre, puis toujours un autre. Donc nous entrons par là dans des cycles qui sont des cycles addictifs. Et il y a un grand cycle addictif, par exemple, qui fonctionne comme ça maintenant. Je vous ai parlé des objets manufacturés, qui impliquent donc le renouvellement, donc l'addiction. Des services marchands en tout genre. Vous pouvez acheter de l'amitié, vous pouvez acheter de l'amour, services marchands. Vous pouvez vous acheter des fantasmes virtuels, faits pour vous, sur mesure. Ça s'appelle la pornographie. Pourquoi vous continuez à vous emmerder dans des relations difficiles avec les autres humains, puisque vous avez la pornographie qui vous donne tout ce que vous voulez? Pourquoi? C'est pas cohérent. La pornographie vous donne absolument tout ce que vous voulez. Et puis en plus, vous êtes libéré avec la pornographie de l'interdit du corps. Vous savez, le truc du Christ, là. Noli me tangere, ne me touche pas. Ne me touche pas. Il disait ça à Marie-Madeleine, la pute repentie, qui était sa femme, paraît-il, mais repentie. Bon. Et donc, elle est revenue, évidemment, quand il est revenu lui-même au monde, et donc il lui a dit, ne me touche plus. Donc voilà, il y a là, le grand sujet, judéo-chrétien porte un interdit du corps. Et donc, que disent par rapport à ça les petits récits? Mais ça, c'est des histoires de grands récits. Mais il faut que tu te libères aussi de ce côté-là. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Et quand tu le veux, sous la forme de fantasmes virtuels, de toute façon, dans la relation sexuelle, la grande part de la relation sexuelle, c'est du fantasme. C'est du fantasme. Donc, passons directement au fantasme. Tu payes pour dire quoi, avoir ce que tu veux, et tu te libères. Donc la pornographie vous libère, c'est comme la cigarette qui vous a libéré. Donc nous sommes dans un monde libéré. Nous sommes aujourd'hui dans un monde libéré. Le problème, c'est que il y a des gens qui regrettent le temps où on était obligé de se bricoler ces petits objets à soi. Ces petites peintures, ces petits poèmes, ces petits bouquets de fleurs, ces façons de cultiver la terre, ces façons d'agencer 3 images dans des bouts de film, ces façons d'écrire un petit peu à mes amis, mes voisins, d'écrire un livre, ces façons de fabriquer des objets que j'aimais bien. C'était pas des objets manufacturés, c'était des objets singuliers. C'est moi qui les fabriquais, et en retour, ces objets m'attestaient en retour de moi-même et de ma présence. L'objet manufacturé n'atteste plus de rien, sinon vous êtes pris dans un cycle de l'autre. L'autre, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Vous êtes aliéné à l'autre, donc vous avez perdu votre objet. Et l'objet perdu vous revient sous forme d'objet manufacturé qui ne vous satisfait jamais. Il ne vous satisfait jamais. Voilà, il y a des gens qui regrettent ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici au théâtre et dans ce beau lieu de maison. construction de spectacles où des gens continuent à fabriquer des objets singuliers. C'est une des raisons. Il y a des gens aussi qui sont complètement inconsolables par rapport à la perte de celui qui donnait un sens absolu. Il est parti. Ça fait longtemps que ça se chante hein, sur les toits. Dieu est mort. Nietzsche, Dieu est mort. Bon. Il y en a qui sont inconsolables. Et donc, qui recrée un Dieu plus fort que tous les dieux, le Dieu absolu. Donc le Dieu absolu, le sur-Dieu absolu. Sur-Dieu absolu, duquel ils vont se faire des sujets automates. Et ces sujets automates vont détruire ce monde dans lequel nous sommes. Donc nous sommes d'un côté, voilà pourquoi le monde est parti. Le monde est parti, d'une part, dans cette recherche de satisfaction qu'on n'arrive pas à atteindre parce que ce sont des ersatz, ce ne sont pas nos objets. Et donc, par rapport à ça, il y en a qui prônent la pureté absolue. Et quand leur pureté absolue se réalise, ça donne ce qui s'est passé il y a quelque temps à Paris. C'est la souillure absolue. C'est l'horreur absolue, c'est des corps déchiquetés. Donc là, on n'est plus dans le corps formaté. On est dans la destruction totale des corps. Alors voilà, j'espère qu'entre ces deux perspectives-là, nous allons pouvoir retrouver peut-être un jour, en bricolant nos objets, je pense que c'est important de venir ici pour voir comment ça se bricole, les objets. C'est important que vous puissiez noter des choses, écrire, vous parler, et que ceci permette de recréer une voie dans laquelle on puisse vivre individuellement sa vie. Parce que dans les grands récits, on avait le droit de vivre sa vie, on vivait la vie de Dieu. Mais les grands récits ont eu des formes aussi qui étaient des formes politiques. Le stalinisme est un grand récit qui promettait les lendemains qui chantent. C'était pas la vie éternelle, mais c'était demain. Avec un demain qui se repoussait sans cesse. Bon. Ces religions politiques ont, évidemment, fait qu'on n'a plus d'espoir en rien maintenant, puisque ça s'est effondré. Donc je crois que, voilà, la croisée des chemins dans laquelle nous sommes, ni donc l'addiction permanente et répétée aux objets dans un toujours plus et courir derrière quelque chose qui n'arrive pas, d'autant que pour fabriquer toujours plus, il faut exploiter toujours plus le monde, et que si on exploite toujours plus ce monde qui est un monde fini, on est en train de détruire le monde. Donc ça c'est une impasse, nous sommes dans une impasse. Et de l'autre côté, l'impasse d'une pureté supposée qui déchiquette les gens, les corps, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'autre à inventer, et c'est peut-être pas mauvais lieu ici pour essayer de penser à ça. Voilà, je vous remercie.